Le quart d'heure corrézien, l'émission d'information hebdomadaire de Bram FM, RGB et RCF Limousin.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans le 43e numéro du quart d'heure corrézien. Je suis Olivier Sérac et c'est moi qui vais vous offrir une bonne raison d'être en retard pour votre prochain rendez-vous. Parce qu'au cours du prochain quart d'heure, nous allons nous concentrer ensemble sur des colères multiples. Celle des agriculteurs bien sûr, mais aussi celle des artisans taxis ou encore celle des enseignants. Ces derniers étaient en grève ce jeudi. Autre colère aussi, c'est celle des habitants de Xaintry. Là-bas, un grand projet de connexion à l'eau potable suscite des crispations alors que depuis plusieurs étés, l'eau potable ne coule presque plus au robinet. Enfin, alors que le tribunal judiciaire de Brive et de Tulle faisait leur rentrée solennelle cette semaine, le parquet de Brive a annoncé que des renforts humains allaient arriver cette année. Une excellente nouvelle après 10 ans d'attente. Le quart d'heure corrézien, vous avez le menu, c'est parti. À l'heure où nous enregistrions ce 43e quart d'heure corrézien jeudi soir, l'A20 était toujours bloquée à Brive. Mais suite aux annonces du gouvernement un petit peu plus tôt dans la journée, les syndicats nationaux que sont la FNSEA et les jeunes agriculteurs appelaient à lever ces barrages. En Corrèze, cette possibilité devait être étudiée vendredi matin, assuré Daniel Couder, président de la FDSEA, la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles.
On se réunit ensemble vers les 11h. Et on regarde un petit peu les suites qu'on a à donner au mouvement. Voilà.
Néanmoins, le syndicaliste reste vigilant.
Sur les annonces de Gabriel Attal, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Il y a un certain nombre d'annonces. Après, nos inquiétudes, si vous voulez, c'est la parole politique et la crédibilité politique. C'est pour ça qu'on veut quand même se mettre une clause de revoyure, parce que pour voir que les annonces qui ont été faites sont bien suivies des faits. Il y aura de la vigilance, et c'est que de toute façon, avant le salon, on n'exclut pas de redémarrer d'autres formes de revendications.
Et il est un point sur lequel Daniel Couder se montre ferme.
Les contrôles sur les contractualisations vis-à-vis des grandes surfaces et surtout bien regarder toute non-négociabilité des prix agricoles, de la matière première, voir que tout ça soit bien respecté.
Une vigilance d'autant plus importante que la fatigue commence à se faire sentir sur le blocage de l'A20.
Ça fait 8-9 jours qu'on est sur le barrage, donc il y a bien eu, on s'est bien relayé par Megman, mais enfin si vous voulez, des mouvements comme ça fait quand même longtemps qu'on n'avait pas vécu de mouvements comme ça sur notre département. Donc il y a de la fatigue évidemment, mais après voilà, au-delà de ça, eh bien, il y a aussi la détermination, parce qu'on voit quand même qu'on a cranté un certain nombre de choses et on voudrait que les choses qui ont été crantées soient réalisées.
En conséquence, la levée du barrage de l'A20 devait se discuter vendredi à la mi-journée. Merci à Stéphane Jacquemin de Radio Totem pour son aide. Les artisans taxis étaient eux aussi en colère cette semaine. Des taxis corréziens sont montés à Limoges d'ailleurs pour faire entendre et voir leur colère au cours d'une opération escargot. C'était lundi dernier. Colère parce que la CPAM, la Caisse primaire d'assurance maladie, impose des remises commerciales aux patients qui sont transportés par les taxis. Des remises pouvant aller jusqu'au quart du prix de la course. Impossible à tenir selon certains manifestants dont le transport médical représente une grande partie de leur chiffre d'affaires. Enfin, jeudi, c'était au tour du monde enseignant de s'emparer de la rue. Ils étaient 150 à Tulle, mobilisation intersyndicale rassemblant FO, CGT, FSU, Sud, CFDT et UNSA. Et là aussi, les motifs de la colère sont multiples, comme nous l'a dit Quentin Setz, c'est le secrétaire académique CGT Éducation Limousin.
Des salaires qui sont en berne depuis trop longtemps, des conditions de travail qui ne cessent de se dégrader. Et puis des réformes annoncées par le gouvernement qui ne vont pas du tout dans le bon sens et qui vont vers une destruction de notre enseignement public et laïque.
Pour lui, le quotidien des enseignants et enseignantes se dégrade.
Ce sont des classes très chargées, un travail supplémentaire qui est demandé à chaque instant. Et puis pas du tout de perspective d'amélioration. Au contraire, des réformes qui vont à la fois dégrader leurs conditions de travail, mais aussi dégrader la philosophie d'enseignement et la capacité des enseignants, des personnels de l'éducation en général, parce qu'il ne s'agit pas que des enseignants, à faire progresser les élèves et à les amener vers davantage d'émancipation.
Parmi ces réformes qui font bondir le corps enseignant, le redoublement pose question chez le syndicaliste.
Si à un certain moment donné, un élève, si c'est le projet aussi de la famille et si le redoublement est une solution pour cet élève pour qu'il réussisse mieux, pourquoi pas ? Mais c'est pas un dogme, parce que on n'a pas à dire on va faire redoubler des élèves comme si on avait des quotas de redoublement. On verra au cas par cas. Et là, ce qui serait intéressant, c'est qu'on donne véritablement la main aux équipes pédagogiques.
Au-delà du manque de confiance donné au corps enseignant, Nathalie Ribière, responsable de la FSU en Corrèze, dénonce un manque cruel d'ambition pour l'école de la part du gouvernement.
Une école qui promeut la même éducation pour tous, avec les mêmes chances de départ, et qui se base sur un service public partout le même. Un service public basé sur des personnels formés, bien formés, sur une école qui accueille tous les publics, mais avec des moyens pour le faire, des moyens humains, des moyens financiers. Et quand je dis tous les publics, c'est des enfants ordinaires, des enfants à besoins particuliers, des enfants en situation de handicap, mais que l'on puisse le faire dans la qualité.
Et c'est donc pour défendre une école avec des moyens humains et financiers suffisants que les enseignants se sont mobilisés jeudi devant la cité administrative de Tulle. Place maintenant à la polémique du moment, celle de l'adduction d'eau potable sur le plateau de la Xaintrie Blanche au nord d'Argentat, un territoire sur lequel vit près de 3000 habitants et qui correspond peu ou prou au territoire de l'ancien canton de Saint-Privat. Ici l'été, le constat est simple, souligne Joël Bénel, le président du syndicat des eaux du Puy du Bassin.
La glane qui alimente la station de Laverne, elle tarit et on ne sait pas pourquoi. Globalement, il y a un abaissement du volume d'eau sur tous les cours d'eau, tous les ruisseaux du Puy du Bassin.
En conséquence, quand la station de Laverne n'a plus assez d'eau, eh bien la préfecture autorise par dérogation le syndicat du Puy du Bassin à aller remplir des citernes d'eau au niveau d'Argentat, puis de remonter l'eau sur le plateau. Mais cette situation ne pouvant plus durer sur le long terme, eh bien les élus ont cherché d'autres solutions et réalisé des études, poursuit Joël Bénel.
Nous sommes en manque d'eau tous les étés quasiment. Pour pallier à ça, nous avons, après différentes études qui ont été faites depuis 2003 sur le Puy du Bassin notamment, où il a été considéré que ce n'était pas des ressources suffisantes ou fragiles, etc. Après une étude sur le Cantal qui a avorté, donc il y a 3 ans, on a pris la décision de se connecter sur le réseau d'eau d'Argentat, la commune d'Argentat, qui est excédentaire et qui pourrait nous alimenter et qui peut nous alimenter en toute pérennité. D'abord en termes de quantité, puis de qualité.
En clair, il va falloir construire un réseau d'adduction de l'eau depuis Argentat en direction du plateau. Mais cette solution n'est pas idéale selon un collectif d'habitants. Aux actes Xaintrie Val d'Ordogne, il est représenté par Anne Deloul.
C'est un projet important qui sera en mesure de remonter 2000 m3 par jour depuis l'Argentat, qui est environ à 200 mètres, jusque sur le plateau de la Xaintrie, qui est à peu près à 400 mètres. Donc, il s'agit de faire remonter l'eau alors que l'eau, naturellement, descend. Les chiffres qu'on nous avance, mais qu'on a beaucoup de mal à obtenir, nous parlent d'un déficit de l'ordre de 150 m3 par jour pendant moins d'un mois et demi, certains étés, et pas tous les étés. Donc, c'est les chiffres qu'on a pu trouver. Il s'agit juste de construire un tuyau. Enfin, voilà, c'est quand même pas rien, mais c'est surtout son coût. Il y a 3000 personnes qui sont concernées par l'eau sur la Xaintrie et on en fait monter énormément pour un coût de 8 millions.
Et c'est bien le coût de cette opération qui stupéfait et interroge le collectif.
Il y a une opacité. Ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un moratoire pendant lequel on nous explique, pendant lequel on débat et pendant lequel on vérifie qu'il n'y a pas d'autres ressources possibles. Il y a de l'eau sur le plateau. Et il nous semble que toutes les ressources utilisables sur le plateau, qu'elles soient souterraines par forage, pompage ou qu'elles soient de ruissellement, n'ont pas été suffisamment étudiées et sollicitées.
Pourtant, vous l'avez entendu, le syndicat du Puy du Bassin a mené des études et ne souhaite qu'une chose, ne plus être dépendant de citernes durant l'été.
Cette interconnexion nous permettra d'abord d'envisager la ressource en eau sur le territoire donc de l'ex-canton de Saint-Privat. En toute quiétude, c'est un projet pour des décennies qui nous permettrait de pouvoir répondre à des investisseurs ou autres, ou des personnes qui ont envie de venir habiter sur notre cher territoire.
Mais pour le collectif Aux Actes Xaintrie Val d'Ordogne, la taille du chantier reste démesurée.
Ils ont confié les études à un industriel de l'eau qui propose une solution industrielle avec un grand chantier. Alors que ce que nous, on met en avant, ce sont une multitude de solutions, tel captage, on peut gagner 10 mètres, 20 mètres, 20 mètres cubes, 50 mètres cubes, etc. Les déficits ne sont pas énormes, donc on pourrait travailler un petit peu plus dans le détail.
Si des réunions publiques parfois houleuses ont été organisées ces dernières années, aujourd'hui, les élus demandent aussi à ce qu'on leur fasse confiance.
On a été élus démocratiquement, l'entente a été créée démocratiquement aussi. Donc, il y avait déjà une entente auparavant, qui était identique d'ailleurs, quand on était lié à la recherche dans le Cantal. Ça n'a rien changé par rapport à ça.
Avec un seul objectif de long terme.
Nous serons indépendants, donc après nous serons tranquilles concernant au moins la ressource en eau sur ce plateau.
De nouvelles études sont en cours, tout comme des solutions de financement qui sont recherchées. Le chantier pourrait commencer d'ici la fin de l'année. En conséquence, les citernages en Xaintrie pourraient se poursuivre encore l'été prochain. C'est la loi. Les tribunaux sont obligés de rendre compte de leur activité chaque année. Aussi, les tribunaux de Tulle et de Brive se sont pliés à la règle cette semaine. Des tribunaux qui doivent faire face à des manques cruels de personnel. À Tulle, notamment, il manque de greffiers. Le point d'orgue s'est produit en septembre dernier où seuls 11 greffiers étaient présents sur les 28 postes du tribunal. Du côté du parquet de Brive, si l'année judiciaire a vu passer 7326 dossiers, l'heure est à la respiration, assure la procureure de la République, Emilia Brandt.
C'est une année surtout en tension au regard de la complexité des affaires que nous avons eu à juger, puisque nous sommes 3 magistrats au parquet depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Fort heureusement, les arbitrages du ministère nous font espérer très prochainement un 4e magistrat, mais la complexité des affaires fait qu'à 3, il est extrêmement difficile d'exercer notre métier dans des conditions sereines. L'arbitrage du garde des Sceaux est fixé à l'horizon 2027, mais les chefs de cour ont arbitré que le prochain magistrat 4e substitut attendu au parquet de Brive était prioritaire. Nous attendons avec impatience ce renfort.
Renfort qui devrait permettre aussi de consolider le travail du parquet concernant les violences intrafamiliales avec
la création du pôle des violences intrafamiliales, avec un circuit plus spécialisé des magistrats au sein de la juridiction. Et puis aussi un très beau projet qui nous tient à cœur au mois de mars. On aura une exposition de photographies autour de la thématique des violences intrafamiliales et une conférence d'un très bon niveau le 6 au soir au sein du lycée Simone Veil.
Autre projet de l'année à venir, créer un pôle de santé psychologique judiciaire. Un projet porté par le service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Corrèze, l'association Aravic, le centre hospitalier des Gurandes en Haute-Corrèze et les parquets de Tulle et de Brive.
Afin d'accompagner mieux les personnes placées sous main de justice, les personnes condamnées, et concrétiser leur obligation de soins. Puisqu'aujourd'hui, la difficulté, c'est que les personnes qui sont placées sous main de justice avec une obligation de soins sont parfois confrontées à des listes d'attente considérables et du coup ne peuvent pas rencontrer les médecins alors qu'elles sont soumises à ces rendez-vous par décision de justice. Donc le but de ce projet, c'est d'obtenir des financements et de recruter tout simplement des médecins pour pouvoir soumettre ces personnes aux obligations qui sont nécessaires pour les aider à se réinsérer et surtout pour prévenir la récidive.
Et éviter de fait aussi de se faire condamner puisqu'on n'a pas pu...
Évidemment, parce que de bonne foi, certains condamnés nous disent qu'ils essayent de trouver un médecin pour pouvoir suivre leur obligation de soins et ne sont pas en mesure de trouver un professionnel de santé pour les accompagner parce que les professionnels de santé sont déjà confrontés à de très fortes charges que nous connaissons tous et ne peuvent pas en plus accompagner des personnes condamnées dans le cadre de leur obligation de soins.
Côté tribunal de commerce, le nombre de faillites d'entreprises est en augmentation, plus 78% en 2023, puisque 118 entreprises ont mis la clé sous la porte. Elles n'étaient que 68 en 2022, mais cette explosion n'est pas anormale, assure Corinne Bousquet. C'est la présidente du tribunal de commerce de Brive.
On s'attendait à ce qu'il y ait bien sûr un retournement de la situation. On a un vivier permanent d'entreprises qui meurent, d'autres qui se créent, et des entreprises malheureusement qui devaient arrêter leur activité. On les a éteintes pendant 3 ans. Grâce au soutien de l'État, il faut bien le dire. Mais maintenant, c'est un dur retour à la réalité.
Et dans ce contexte, le tribunal souhaite poursuivre son travail de prévention, mais surtout...
Casser cette image du juge qui sanctionne. Nous ne sommes pas là pour sanctionner les chefs d'entreprise, on est là pour les accompagner dans leurs difficultés, mais aussi dans la fin de leur activité, lorsqu'elle n'est plus rentable.
Alors pour tenter d'y parvenir, le tribunal de commerce espère cette année encore...
leur parler, et pour ça, j'essaye de toucher tout d'abord tous les gens qui interviennent auprès d'eux, c'est-à-dire les cercles d'entrepreneurs, les chambres consulaires, par le biais, bien sûr, la chambre de commerce, la chambre de métier, leurs syndicats professionnels, tous ceux qui sont auprès, normalement, des entreprises, pour faire connaître notre action et pour inciter les chefs d'entreprise à venir nous voir.
Et pour aider certains patrons, l'APESA, l'Association d'aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë, est en cours de déploiement à Brive. L'antenne locale devrait être opérationnelle au cours de l'année. Voilà, c'est la fin de ce 43e numéro du quart d'heure corrézien. N'hésitez pas à nous écrire à cette adresse info.rgb@orange.fr pour nous faire part de vos infos et de vos avis. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, je vous souhaite d'excellents moments sur nos ondes en Corrèze ou ailleurs.
Vous venez d'entendre le quart d'heure corrézien. L'émission est à retrouver sur nos sites bramfm.com, rcf.fr et radiograndbrive.fr.